je me suis dit, il existe cette histoire-là, mais il n'existe pas l'histoire du premier des loups-garous. Pourquoi le premier des loups-garous? Parce que je dois vous dire que j'ai fait mes études avancées en études québécoises, où j'ai écrit un mémoire de maîtrise sur le loup-garou dans la tradition orale du Québec. Ce qui fait de moi le seul et unique loup-garologue au Québec. Ma mère m'a toujours dit, dans la vie, pour réussir, ça prend un titre. Je m'en suis fait un. Donc, je suis loup-garologue québécois. Donc, si vous avez des problèmes de loup-garou au Québec, c'est moi qu'on appelle. Et j'ai étudié dans la tradition orale du Québec, qu'est-ce que c'était la bête et c'était quoi la mythologie autour et d'où ça venait et tout ça. Et pour finalement m'intéresser au mythe du loup-garou ailleurs. Et je me suis dit, je connais le sujet. On écrit toujours mieux sur les choses qu'on connaît que sur les choses qu'on invente ou ce qu'on connaît peu. Alors, je me suis dit, il n'y a pas d'histoire du premier des loups-garous. Je le savais. J'avais fait des recherches. Alors, je me suis dit, pourquoi, comme je connais le sujet, comme je connais la thématique, pourquoi je n'écrirais pas cette première histoire-là? Et ça a donné Very Wolf, voilà, le premier des Rajas, qui est le premier des rois. Et mon intention dans la série, c'est d'écrire sur le premier des loups-garous et de remonter le temps jusqu'à aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous intéresse chez le loup-garou? On en parlait tout à l'heure, la part animal-homme.
Ce qui m'intéresse, c'est tout le côté de l'instinct, de l'animalité, qui est à l'intérieur de nous, parce que nous sommes à la base tous des bêtes, et qui sont devenus, on est devenus des créatures sociales, finalement. On vit en société, on s'est fait des lois, Et l'exemple que je donnais sur la bête qui est enfouie à l'intérieur de nous, c'est comment ça se fait qu'il y a un homme, OK? Disons, je connais pas trop la région ici, mais qui vit en banlieue, OK? Qui est un type qui a deux enfants, une femme, une petite maison, tout est parfait, on ne lui reproche rien dans la vie, il a une vie exemplaire, ça va très bien, c'est pas un type violent. Une journée, il travaille à Paris, disons, au centre, il revient chez lui, sa société menace de fermer. Il s'est engueulé avec sa femme le matin avant de partir. Il a un peu faim. Ses deux enfants, il y en a un qui, on a appris qu'il... Il fumait de la drogue, l'autre a des mauvaises notes à l'école. Il voudrait changer d'auto, mais il n'y a pas les moyens. Son cellulaire, son GPS, pas son GPS, son portable n'arrête pas de sonner, de parler. Puis il est stressé, et là, il y a un bouchon à Paris. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un bouchon. Et là, il y a un bouchon, soudainement. Et là, il y a quelqu'un à l'arrière de lui qui n'arrête pas de faire... Qu'est-ce qui fait que cet homme-là va réprimer 2000 ans de sociabilité pour ouvrir la porte de son automobile, se rendre en arrière et foutre son poing sur la gueule à ce type-là qui fait brr, 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 en lui disant « Arrête! » Si on était au Québec, je dirais « Arrête mon tabarnak! » Mais ça. C'est quoi cette part d'instinct-là animal qui, en une seconde, va faire en sorte que 2000 ans de sociabilité, de loi, tout ça, vont tomber et que là, c'est la bête qui va délimiter son territoire, qui va s'imposer à l'autre, et qui va agir comme une bête face à l'autre, avec violence, sauvagerie, pour déterminer qui est le chef et qui et tu vas te soumettre. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est finalement l'histoire du Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est la même histoire, les loups-garous. Et c'est ce qui m'intéresse du mythe du personnage, qui est un peu différent au Québec, mais qui est un archétype, finalement. Jung a déterminé plusieurs archétypes dans notre inconscient collectif que nous avons tous, et ça, c'en est un. Et on se transforme partout à travers, dans le monde. Les hommes se transforment en animal. C'est-à-dire qu'en Corée, il y a des peuples qui se transforment en singes. En Afrique, on se transforme en guépard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loup. En Europe, on se transforme en loup, chez nous aussi. Alors, le mythe est partout. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que les hommes sont capables de se transformer en bêtes? Non, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a une partie de la bête qui est présente dans nous et que des années de culture ont fait qu'on se raconte ces histoires-là autour de ce mythe-là pour essayer de mieux le comprendre, peut-être.
Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le personnage? Alors, le héros s'appelle la bête.
Oui.
Il va avoir d'autres noms. Mais comment est-ce qu'on peut le délimiter psychologiquement?
Mon personnage, c'est un calque. C'est un calque de mon chien, un peu. Ben, ça a l'air bizarre, mais Anne, la femme de ma vie, vous le dira, on a deux chiens, dont un qui est Porthos et qui est un, comment je dirais, qui est instinctif. Il n'est pas sauvage, mais il est imprévisible et on ne sait jamais ce qu'il va faire. Et à un moment donné, il va partir à courir pour rien. Puis il court sur le terrain, puis il roule, puis il roule autour de la maison. Puis... Alors, il y a tout un univers qui lui appartient, qui suit aucune logique. Et qui et je me suis inspiré de ça, justement, pour créer mon personnage. Mon chien aussi est pas lunatique un peu, mais s'il voit un peu de lumière quelque part, il va se fixer là-dessus. Puis vous pouvez, avec une lampe de poche, là, dans le noir, là, faire ça, puis il va la suivre, tu sais, jusqu'à mourir de ça, tu sais, il devient fou. Ben, c'est un peu l'inspiration. Puis comme je traitais, ben, d'un homme qui croit qu'il est un loup, ben, le meilleur calque que je pouvais avoir, c'est de m'inspirer sur un chien qui est le plus proche du loup. Parce que des loups, j'en fréquente peu, quand même. J'en ai bien connu quelques-uns, mais...
Simplement, c'est facile à écrire un personnage comme ça, qui n'a pas de limite, qui est complètement imprévisible?
C'est plaisant. Je ne sais pas si c'est facile, c'est plus difficile, c'est plaisant, parce que à chaque fois que le récit s'en va d'un côté et on se dit, bon, ben tout le monde va penser que ça s'en va par là, ben je tourne, je change d'angle, parce que le personnage change d'angle et oups, c'est autre chose qui arrive. L'idée pour moi, c'est que le livre doit aboutir à... Tu dois partir de A et finir à Z. C'est de ne pas trop me perdre là-dedans, tu sais, puis d'y aller par chemin, hein, par chemin détourné, mais de jamais oublier que je m'en vais. C'est quand même une histoire, là, c'est pas... et qu'il faut que je termine à Z, ce que j'ai... la fin que je désire, tu sais. C'est-à-dire que c'est juste de faire en sorte de bien ramasser l'histoire pour que ce soit imprévisible, mais quand même que ça évolue toujours.
Juste une petite pause. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce qu'on peut discuter. Mais vous n'êtes pas nombreux, donc ça... Ah.
La fin, vous la connaissez déjà?
Oui. Chaque fois que j'écris un roman, je connais le début et je connais la fin. Un peu comme, quand je vous ai dit tantôt en entrevue, je vis à Shawinigan. Quand je suis au Salon du livre de Montréal... les Montréalais me disent « Vous demeurez où? » Je dis « À Shawinigan. » Je dis « Savez-vous, c'est où? » Puis ils me disent « Oui, hein, c'est à peu près c'est où? » Ben je travaille de cette façon-là. Je sais à peu près où je m'en vais vers la fin, mais le chemin que je prends, ben je le découvre à mesure que j'écris. Ben, j'ai toujours le début et j'ai toujours la fin. Comme écrire, c'est réfléchir, ben je me ménage du temps entre pour justement me faire mon propre chemin, mais j'ai toujours une destination finale, disons.
Pourquoi avoir choisi l'Antiquité comme pour le premier des loups-garous?
Parce que les premières histoires datent de l'Antiquité. Ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire se rappelleront de Lycaon qui a été transformé en bête, lui et ses fils. Je pense qu'il y en avait 32. Fils, c'était un homme actif. Qui a été transformé en... parce qu'il avait fait de manger de la viande aux dieux, de la chair humaine aux dieux, et qui s'était vengé en le changeant en loup. Nabucodonosor, apparemment, était capable de se transformer en bœuf. Donc, les premières histoires de transformation viennent de là, et comme tout l'imaginaire mythologique, je vais vous dire, de toute cette partie du monde-ci nous viennent des Grecs, ben pour moi, c'était logique de partir de l'histoire-là, comme c'est la base de toute finalement notre mythologie et un peu notre façon de penser le monde aujourd'hui.
Votre personnage, alors au début, je donne un petit peu l'histoire, c'est un esclave qui effectivement n'a pas beaucoup de repères puis qui au fur et à mesure va s'humaniser.
Je sais pas si, ouais, si c'est ouais.
Comment est-ce que vous avez travaillé comme ça? Est-ce que vous aviez l'idée de la bête au départ qui grandit ou est-ce que vous l'avez déjà vieux, entre guillemets, vous êtes remonté après?
Non, j'avais l'idée de prendre un point de départ dans sa vie, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on le retrouve esclave après un... Je sais pas, il doit avoir une vingtaine d'années là-dedans. Qu'on le retrouve comme esclave, puis qu'on commence à partir de là. puis pour ensuite, à mesure que lui remonte vers ses racines, que nous, on fasse le voyage inverse dans sa jeunesse et qu'on apprenne des choses tranquillement à mesure que lui monte vers les loups ou cette meute-là qu'il a vu naître ou qu'il a élevé, ben tranquillement, ben on apprend comment lui s'est détaché de ce meute-là, a été et est allé dans sa position d'esclave. Fait que plus le personnage monte, plus le récit descend vers la position où il est parti.
Il a un frère?
Oui.
Jumeau?
Ben, Rémus et Romulus, hein? L'idée de départ, je vous ai dit, la belle statue, c'est ça.
Vous avez réétudié le mythe un petit peu de Romulus?
Oui, ben, j'ai regardé, oui, ben, oui. Et je me suis basé là-dessus pour créer cette histoire-là en deux frères. Un qui est élevé par les loups, qui, par accident, il aurait pu rester dans la meute, mais par accident, est tombé chez les hommes, alors que l'autre, son frère jumeau, a été exclu volontairement de la meute parce qu'il était trop humain. Et il y avait trop cette façon-là que les humains ont de vouloir dominer l'autre. Donc, il était, c'est ça. Donc, lui, il a été exclu de la meute et ben, il a eu une autre vie. Et c'est aussi ces deux histoires-là en parallèle là, qui vont se recouper.
Est-ce qu'on peut dire déjà des choses du tome 2?
Oui.
Parce que je crois qu'il sort d'ici un mois au Québec.
Oui, en octobre.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver un peu comme histoire? Ben,
le tome 2, c'est finalement le premier des loups-garous qui naît dans le premier roman, qui à l'âge de 14 ans, à peu près, 14-15 ans, va entreprendre un grand voyage en Égypte. Et évidemment, je traite de la mythologie et tout. Et donc, il va faire un grand voyage en Égypte et va devenir le personnage égyptien d'Osiris Pat, qui est la puce d'Osiris, qui est un guerrier divin. Finalement, un guerrier envoyé par les dieux et qui va s'établir une place de choix auprès du pharaon qui est là, qui est le fils de Ramsès II, et qui va poursuivre son histoire-là. Il va vivre des choses marquantes pour l'établissement de son règne à son retour. T'sais, c'est comme dans toutes les trames mythologiques, il y a un grand départ, on vit des aventures qui nous transforment et on revient transformé, prêt à s'établir. Et comme l'adolescence, une grande aventure, et quand tu l'as fini, ben, tu deviens un homme et tu es prêt à t'établir en banlieue
avec ta voiture. Comment justement on parle d'adolescence, comment est-ce que les ados lisent le livre? Quels sont un peu leurs retours?
Bien, moi j'ai toujours d'excellents commentaires. Il faut dire que j'ai un public qui me suit au Québec du fait que j'ai écrit une série avant qui s'appelle Amos d'Aragon, qui a eu un immense succès au Québec, qui a été traduit dans 18 langues. Et donc, je me suis fait connaître au Québec, je suis connu. Donc, les jeunes qui ont vieilli, qui ont lu Amos d'Aragon, qui ont vieilli, ont immédiatement sauté dans Very Wolf pour savoir ce que j'écrivais de nouveau. Et les commentaires sont excellents. Je reçois tous les jours des courriels de fans, le présentement québécois, qui me demandent quand le tome 2 va sortir, qui me posent des questions sur comment j'ai créé ça. Bon, je réponds à tout le monde et je leur dis... je leur explique un peu vers où aussi parfois la série s'en va pour continuer à garder leur intérêt. Mais l'accueil était très bon, très favorable. Je suis très content.
Est-ce qu'il y a des questions? Ah bah, il y a plein de questions.
Hein. Oui.
Alors, on va commencer par Hélène.
Au niveau de l'espace-temps, est-ce qu'on évoluera? Est-ce qu'il y aura un saut dans le temps? Par exemple, le 8e tome, est-ce qu'on restera dans l'Antiquité?
Non.
Ou alors vous parlerez des loups-garous?
Non, l'idée c'est de partir de l'Antiquité, d'établir le mythe, et de faire en sorte que les lecteurs suivent l'histoire d'un peuple à travers le temps et non pas d'un héros. Alors, j'ai l'intention de finir la série au 20e siècle. C'est ça. Là où on est présentement. Donc, ça me permet de faire des cycles puis de toucher les mythologies africaines parce que, tranquillement, le peuple va se répandre, tu sais. Mythologie africaine du loup-garou, puis d'aller vers l'Asie, puis vers l'Europe du Nord, puis éventuellement, faire le saut en Amérique aussi. Ça me plairait bien parce que la mythologie amérindienne nous présente le loup et l'homme loup d'une façon très différente de ce qui est le mythe européen, disons.
D'accord.
Il y avait une autre question.
J'ai eu la chance donc de lire votre livre en avant. Il y a quand même, en le lisant, vraiment beaucoup d'humour.
Merci.
Et je voulais savoir si c'était volontaire de votre part pour effectivement un peu atténuer la cruauté de certaines scènes. Ou alors pour effectivement atténuer aussi la tragédie en fait de cet homme, de la bête.
c'est pas des choses qui sont mesurées, je pense. C'est pas des choses auxquelles je pense. C'est des choses qui... Mon écriture, c'est moi, tu sais. Et à partir du moment où je pense avoir être un type qui a de l'humour aussi, et donc ça transperce aussi dans, je pense un peu dans ce que j'ai écrit. Mais c'est pas mesuré, c'est pas calculé, tu sais. C'est pas dire, faut qu'il y ait un peu d'humour pour être. Je raconte une histoire de la façon le plus libre possible, puis évidemment, ben c'est un calque de ce que je suis, un peu de ma personnalité, de ce que je connais, de mes expériences aussi, de tout ça est un mélange, si vous voulez, de choses. Donc l'humour qui peut être dedans, c'est bien involontaire, finalement.
À contrario de l'humour, il y a des scènes qui sont extrêmement dures.
Oui.
Est-ce que votre éditeur au Québec vous a un peu freiné sur certaines... parce que pour un public adolescent, ça y va, quoi.
Moi, j'ai un éditeur au Québec. Avec Amos d'Aragon, on a vendu 1,4 million de livres au Québec seulement. Chaque fois que j'écris quelque chose, il fait « go, go, go ». Vas-y, vas-y. Non. Go, go. Non, j'ai une belle liberté là-dessus. C'est vrai qu'il y a des scènes qui sont dures. C'est vrai que dans l'autre série de jeunesse que j'ai écrite, il y a des scènes qui sont aussi dures. Mais moi, je peux jamais être plus dur que la réalité, tu sais. Je peux jamais être plus violent que la société dans laquelle je vis, tu sais. Tourner des postes de télé, là. Je parle pas des films, je parle juste de l'actualité, tu sais. Je veux dire, je peux jamais, moi, accoter la réalité. Ça fait que quand même si j'ai des scènes qui sont difficiles, qui sont dures, qui sont violentes, je me les permets parce que, puis même en littérature jeunesse, parce que c'est le monde dans lequel on vit aussi, tu sais. Et avoir peur et apprendre la violence, apprendre, ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie. Puis selon moi, ça aide à mieux se situer peut-être dans le monde dans lequel on vit. Puis de toute façon, les jeunes font la part des choses toujours, tu sais. Ils font la part entre l'imaginaire puis la réalité. Puis moi, je crois pas que... Moi, je crois pas que les jeux vidéo violents créent des tueurs en série, tu sais. Je crois que les tueurs en série sont mentalement... Ils ont un problème mental. Sans le jeu vidéo, ça serait passé de toute façon, tu sais. Donc, la violence qui est là, je pense pas que ça incite ou que ça change quoi que ce soit. Hein.
Ou un problème de voiture.
Comment? Ou un problème de voiture dans le... C'est ça.
Créant votre personnage, est-ce que vous êtes amené à vous rapprocher un petit peu, regarder ce qui s'est fait au cinéma sur les loups-garous, dans les séries?
Ouais, j'ai tout vu. J'en avais vu déjà avant, et j'ai des très vieux films du cinéma américain où on présente The Beast Man, et jusqu'au plus récent, j'ai tout regardé. Et on présente toujours seulement un côté du personnage, tu sais. Et c'est moi ce qui me déplaît, parce que tous ces films-là sont des calques, ils sont tous pareils. Parce que c'est toujours l'histoire de l'homme qui se fait mordre et qui se transforme et qui... Bon, donc, il y a peu de nouveautés là-dedans. Donc, en me basant là-dessus, j'ai essayé de faire autre chose, moi, tu sais.
Dans votre roman, apparemment, vous parlez aussi beaucoup d'aspects humains, enfin, de côté humain et bestial. Je sais qu'il y a des séries, une série qui a été faite où, justement, on abordait cet aspect-là, le loup-garou qui voulait s'intégrer dans la société et se mettre en avant, enfin, s'humaniser, quoi.
Oui, ça, j'ai pas vu, ça, j'ai pas...
Vous avez retenu des choses, vous n'êtes pas inspiré spécialement, quoi.
Non, mais moi, ce qui m'a inspiré vraiment pour ça, ce sont les mythes anciens, les mythologies. Est-ce qu'on a cru ce qui était la bête, d'où ça venait, et tous les symboles, tu sais. Je sais pas, dans les mythologies anciennes, il y a toujours le lac. Hein. Une façon de se transformer en bête, c'est de nager dans un lac à la pleine lune, et là, on ressort du lac sur l'autre rive et on est une bête. Bon, alors, je suis parti de cette idée-là, ancienne, mythologique, et j'ai travaillé autour de ça aussi.
Moi, c'était sur les personnages féminins. Moi aussi, j'ai eu la chance de le lire. Alors, contrairement à ce qui était dit, moi, j'ai pas trouvé que c'était tellement bestial que ça, parce qu'à chaque fois, les scènes qui sont un peu violentes, c'est la bête. Donc, quand la bête se bat, elle se bat comme une bête. Donc, moi, je tempérerais sur la violence. Mais vos personnages féminins, bon, à part la louve qui est fantasmée, il y en a autant qui soient vraiment sympathiques. Non, mais ça c'est bon.
C'est comme dans la vie.
Non, je
comprends pas. C'est la vie normale.
Il y aurait une femme qui serait quand même un peu plus sympathique.
C'est toute ma vision de la. C'est toute ma vision de la femme là, qui est là. Je vais revenir de Paris complètement chaviré, mais installée au Québec.
Mais c'est vrai que dans les personnages féminins, sincèrement, c'est la Louve qui est fantasmée, qui est le plus beau personnage féminin. Les humaines sont un peu
plus. Un peu, ouais. Mais tu sais, quand on touche à la mythologie, puis on touche à la femme, c'est toujours de la question de la notion de sorcière. Mais c'est souvent ça qui revient, tu sais, la notion de sorcière, de magicienne, qui dispose de pouvoirs et de savoirs qui sont, tu sais, exclusifs et inconnus aux autres. C'est peut-être ça qui m'a inspiré. Mais dans le tome 2, il y a Mysis qui est là, qui va vous plaire. Alors, ce qui est placé dans le tome 1, je me reprends énormément dans le tome 2. Enfin, j'espère.
Et il y a une deuxième chose, c'est l'idée de la pierre de l'ouvrage. Alors que moi, j'ai trouvé que c'était de très beaux passages. Et du coup, voilà, là, ça vient pas d'un mythe. C'est vous, pour le coup. C'est le fait qu'il avale la pierre comme ça, que le seul objet qu'il est, il est en lui. Ça, c'est vous qui l'avez trouvé, cette invention. Ça ne ressort pas d'un mythe.
C'est la lumière.
Oui.
Que si un rayon de soleil qui arrive dans ma montre et qui s'en va par terre, mon chien va la suivre, Non, mais c'est la base. Et là, je me disais, bon, s'il prend une pierre et il voit, il devient omnibulé, il voit là-dedans des choses qui n'existent pas finalement, qui s'imaginent. Et la seule façon de le garder, de faire en sorte que ça ne part pas, il n'y a rien, il n'y a pas de vêtements, c'est de l'avaler, tu sais. Puis de la récupérer au bon moment et de la réavaler et de faire en sorte qu'elle soit toujours que cette lumière-là vive en lui, tu sais. Donc ça, c'est moi. C'est pour me reprendre sur les femmes. Je me suis dit, je vais créer d'autres belles images.
Est-ce que on va laisser le jeune homme parler?
Présentement, il y en a 8. 8 de prévus. C'est un chiffre... j'ai divisé mon histoire en gros, là, peut-être en 8. Mais je me laisse toujours une marge de manœuvre. Parce qu'on ne sait jamais dans l'écriture, tu sais. Je peux avoir une excellente idée et je ne passerai pas à côté de cette excellente idée-là pour... Bon, donc, c'est ça.
Il y aura une femme supplémentaire.
Oui, il y a un cycle entièrement féminin de femmes super sympathiques. C'est ça, oui.
Pas une seule voiture, rien.
Moi, je voulais savoir si vous avez voulu absolument écrire pour la jeunesse ou vous écrivez et puis ça aurait pu être publié dans...
Moi, j'écris des histoires, j'ai...
Vous choisissez pas la jeunesse, vous n'avez pas l'impression d'écrire pour la jeunesse.
Moi, j'écris des histoires, puis les autres me disent c'est pour qui. Dans la mesure où, moi, j'écris des histoires, puis il y a toute une notion dans un livre de commerce. On va se dire, parfois, c'est un produit commercial, le livre. Et les meilleures personnes pour savoir comment vendre ce produit commercial-là, c'est les éditeurs. C'est eux qui lisent le livre et qui disent, c'est pour un public de tel. C'est pour, chez vous que ça sorte. En jeunesse, c'est la décision de l'éditeur. Moi, je suis parfait, ça va très bien avec ça. Chez nous, il sort pour plus vieux. Je ne sais pas, chez nous, c'est pour... Je dis 14 ans et plus. Moi, c'est quand même du jeunesse, là, mais adolescent. C'est peut-être ça aussi chez vous. C'est ça. Donc, moi, j'écris mes histoires, puis ensuite, je laisse aux éditeurs le soin de me dire, on peut aller dans ce voie-là,
Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le Garou, c'est finalement la transformation, vous parliez d'un moment de passage un peu comme l'adolescence, ou la dualité qui s'exerce entre la bête et...
C'est la dualité qui existe à l'intérieur de cet âge-là, parfois, qui nous montre, qui... Je ne sais pas si ça vous arrive, il arrive quelque chose des fois dans votre vie, non, mais... Oui, c'est sûr. Non, mais il arrive des événements dans la vie, parfois, qui nous mettent hors de nous, qui font en sorte qu'on est prêt à tout démolir pour... Comment ça se fait? T'sais? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est quoi cette rage-là qui peut monter, t'sais? Puis qui peut nous faire faire des folies ou des choses qu'on peut regretter, tu sais. Donc, c'est ça qui m'intéresse, cette dualité-là, qui est un archétype, finalement, et qui aide peut-être moi à mieux me comprendre. Je ne sais pas, ça va peut-être jusque-là, ou peut-être ça fait partie de nous, mais c'est juste plaisant de raconter des histoires là-dessus, tu sais. Je ne sais pas, là, je ne suis pas psychologue ni rien, sauf que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça, parce que c'est un phénomène que moi, je vis. Je le vis pas quotidiennement. J'ai pas envie de tuer personne ou quelqu'un à tous les jours. Mais aux deux jours, non. Mais c'est des choses que moi, je vis. Alors, puis qui sont aussi dans ma famille depuis longtemps. Bon, donc, c'est ça. Mais on n'est pas des batteurs de femmes ni rien. Non, je veux juste m'assurer que...
Ça vous est déjà arrivé d'avoir la rage après une question d'un journaliste?
La rage après une question d'un journaliste? Ça vous est déjà arrivé?
Juste un journaliste qui avait sorti quelque chose, t'avais demandé de ne pas parler.
Ah oui. Ah oui, là, lui, hein?
La bête.
Je fais une entrevue dans un journal un jour, dans l'Actualité, qui est une revue magazine. Et le journaliste, je le reçois chez moi. Et il dit, mon fils est un fan d'Amos d'Aragon. Est-ce que je suis ben oui, amenez-le. Alors, je viens, tu sais, puis je lui signe ses livres, puis j'ai des posters, des affiches, je lui donne tout ça, tu sais. Puis je fais visiter mon bureau, et là, il y a des esquisses, un personnage, je suis en train de travailler. Haywin Thomas. C'est un truc que j'ai fait pour une revue, mais qui est là, tu sais, puis. Et la série Amos d'Aragon va se terminer, le journaliste me demande sur quoi vous allez travailler, tout ça. Puis je ne sais pas encore, mais il y a ça. Présentement, je suis en train de travailler. Parlez-en pas parce que c'est pas sûr. Puis je n'ai pas envie qu'on en parle. Tout ça, je suis en train de débaucher quelque chose. Puis il n'y a rien de solide. Parfait, parfait, on n'en parlera pas. Le salaud. Ça, quand j'ai pris la revue, c'était de... Là, lui, je l'aurais. Mais ça va. Ça va, je suis revenu. C'est passé, ça va. Non. Comment? Non, 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 lui est gentil. Lui.
Une dernière question avant l'apéro. Je sais, c'est moche dit comme ça, mais. Une question, l'apéro est là, hein. Il n'y a pas de souci. Une petite avant de terminer? Non?
La question, c'est à quelle heure l'apéro?
Ouais,
c'est
ça. Il y a des livres si ça vous intéresse, ouais. Pour avoir des dédicaces, c'est le bon moment. Il y a toute une tournée, si vous n'osez pas les signer, enfin les faire dédicacer aujourd'hui. Pour les avoir plus tard. Et il y a 42 bouteilles à boire, c'est ça, Hélène? Il y a 42 bouteilles à boire, donc. Ça fait une par personne.
Commençons tout de suite.
C'est votre cru, et puis voilà, puis, ben, on vous remercie.
Ben, merci de votre accueil.